Yeah. Ouellet,
en direct. En direct, avec JC.
Ouais, moi, je l'adore.
Et Patricia.
Continue dans ce sens-là, on va aller loin.
Radio X.
Midi 59, un changement drastique de sujet, mais ô combien intéressant. Depuis quelques mois, j'ai noté, là, tu sais, ouais, je fais ça moi-même. Tu sais, je regardais les nouvelles, puis je dis, voyons, il me semble que depuis un certain temps, on trouve donc bien des vieux meurtriers. On résolut donc bien des vieilles affaires. Des affaires du début des années 90, 80, même 70, j'en ai vu passer. On a trouvé le meurtrier de telle fille. Puis là, tu vois une vieille photo d'archives de noir et blanc en 1972 d'une dame qui a été assassinée froidement, laissée d'un fossé. Puis là, tu te dis, ben voyons, on le trouvera jamais, ce gars-là. Ça fait 50 ans. Ça fait 55 ans, tu sais, ça fait... Et là, pouf, hey, on a trouvé le meurtrier. Des fois, même, ils sont décédés. Hey, on a trouvé le meurtrier, il est mort en 99.
Ah, puis comment tu arrives à faire des liens béton aussi avec ce qui reste de l'humain? Là, c'est squelettique, là, on s'entend. Là, je veux dire, quand c'est un cas des années 70, je comprends qu'il y a une analyse, là, mais ça ne doit pas être si évident que ça, parce que des fois, on en cherche.
Puis même à ça, même sur des vieux, c'est souvent des vieilles preuves qui ont été gardées dans des sacs. Puis là, on a réussi. Puis là, de plus en plus, on jasait de biologie judiciaire. On jasait d'ADN, de génétique. Et j'ai compris qu'il y avait énormément d'avancement dans ce domaine-là. Puis ça fait un certain temps que je disais, Max, j'aimerais ça que tu me trouves quelqu'un qui peut nous expliquer qu'est-ce qui a changé. Et on en a trouvé un. On va aller lui parler. Il est biologiste judiciaire, porte-parole du laboratoire de sciences judiciaires et de médecine légale. Il s'appelle M. Nicolas Tremblay, qui est là. M. Tremblay, bienvenue et bonjour.
Bonjour.
Qu'est-ce qui a tant changé? Parce que la génétique, on comprend là, que depuis les années 90, l'ADN, on a tout ça dans notre jargon. C'est devenu des sujets dont on parle de temps en temps. Mais qu'est-ce qui a tant changé pour qu'on soit capable aujourd'hui d'élucider autant de vieilles affaires de cold case?
Ce qui a vraiment changé, c'est notre capacité à utiliser des nouvelles technologies pour aller étudier l'ADN, mais à une résolution qu'on n'avait pas auparavant. Donc, tu sais, dans les analyses standards qu'on fait, on fait un profil génétique avec certains appareils. Puis là, maintenant, on a des appareils plus perfectionnés qui nous permettent d'aller faire des recherches qu'on n'était pas capable de faire avant.
OK, des recherches, parce que moi, je veux juste comprendre. Là, moi, de ce que je comprenais dans les années 90, quand on a commencé là, vraiment à voir l'ADN comme étant une source de preuves fiable, ben on me disait, écoute, le meurtrier a laissé, mettons, un cheveu sur les lieux du crime. Et si lui était lui-même le meurtrier, s'il était fiché avec son ADN, ben là, on pouvait faire le lien à 99,9% puis ça devenait une preuve assez solide. Mais, je veux dire, on n'en trouvait pas tant que ça. Qu'est-ce qui a changé dans l'ouverture de ces preuves-là? Puis comment on peut relier maintenant, 50 ans des fois plus tard, un cheveu à quelqu'un?
Bien, on garde toujours la même preuve où nous, on va aller faire des prélèvements sur les pièces à conviction. On va recueillir l'ADN, puis cet ADN-là, dans l'enquête, elle peut rester inconnue. Donc, nous, on la conserve dans le dossier. Puis, avec les nouvelles technologies, les choses qu'on peut faire qu'on ne pouvait pas faire avant, c'est, par exemple, associer un nom de famille avec l'ADN. Donc, au laboratoire, on a une base de données qu'on appelle patronyme. Puis ça nous permet d'associer un nom de famille avec un profil ADN. Donc, tu sais, dans l'ADN, les hommes, on a un chromosome Y. Puis le chromosome Y, quand, mettons, moi, j'ai un enfant, je lui transmets mon chromosome Y. Right. Puis lui, quand il va avoir des enfants, il va transmettre le même. Mais, par exemple, au Québec, quand on transmet notre chromosome Y, souvent, ben les hommes, on donne notre nom de famille aussi.
Ouais.
Donc, maintenant, on est capable d'associer un profil ADN avec un nom de famille. Donc, si l'enquêteur, tu sais, dans son calepin, il a les noms des suspects,
ouais,
nous, on fait cette analyse-là, bien, lui, il va voir, OK, Bélanger, hey, Bélanger, je l'avais dans mon carnet, puis, tu sais, j'ai jamais été chercher son ADN pour le comparer avec l'ADN de la scène de crime.
Okay.
Donc, ça peut faire débloquer l'enquête avec cette nouvelle technologie-là.
Donc juste pour être sûr que je comprends, là. Donc, maintenant, l'ADN va vous donner un nom. Va vous dire, OK, ça, c'est de l'ADN de Courtemanche, mettons.
Oui, c'est ça. Nous, on est capable de prédire, là, pour dans certaines circonstances. On n'est pas capable de prédire tous les noms de famille, mais si l'analyse qu'on fait donne un nom de famille, bien, nous, on est capable de transmettre ça à l'enquêteur comme piste d'enquête.
On recoupe ça avec les vieilles enquêtes, avec les suspects qui étaient là sur place. Là.
Exactement. T'sais, donc, on revient à l'enquête traditionnelle où le policier, lui, il va faire avancer son enquête à l'aide de cette information-là. Puis, un autre nouvel outil qu'on a, c'est la généalogie pour fin d'enquête. Donc, si le profil génétique il reste inconnu une fois qu'on a essayé d'associer un nom de famille, bien, on peut aller faire des recherches dans des banques publiques où les gens ils ont mis leur profil génétique pour essayer d'en apprendre sur leurs propres ancêtres, puis ils consentent à ce qu'on l'utilise pour des enquêtes criminelles, pour des crimes graves, là, par exemple des meurtres non résolus, des agressions sexuelles graves, des tentatives de meurtre. Puis quand on fait ça, on va aller comparer l'ADN, puis on va trouver dans les banques des liens, par exemple un troisième cousin, peut-être une tante, peut-être un grand-parent. Donc, on essaie d'identifier les ancêtres que ces gens-là ont en commun. Mm. Ce qu'on peut apporter pour le policier, c'est lui dire, bien, dans cette branche-là de l'arbre, on sait que l'ADN de la scène de crime, il vient de cette branche-là. Wow. Donc, quand lui, il va enquêter, en regardant les listes, les suspects qu'il y avait, tout ça, bien, il peut réussir à redescendre jusqu'au suspect. Puis là, c'est les mêmes procédures que normalement qui vont aller. Donc, ils vont essayer d'aller chercher un mandat pour avoir l'ADN du suspect s'il est toujours en vie. Puis sinon, ben on peut soit comparer avec des membres de la famille qui sont toujours en vie. Là. Fait que c'est comme un test de paternité à ce moment-là. C'est le même genre d'analyse où là, on peut dire ben l'ADN sur la scène de crime, c'est l'ADN, c'est sûr, d'un frère, de telle personne, enfant.
Donc, quand vous parlez de ces banques-là, où les gens, parce que là, je me demandais, est-ce qu'il y a une banque où on peut déposer volontairement notre ADN? Mais puis là, vous avez dit après, sur des gens qui cherchent de leurs ancêtres. Donc, vous parlez d'un site, mettons, comme My Ancestry, des affaires de même?
Oui, c'est ça. Nous, les sites sur lesquels on peut faire des recherches, là, tu sais, où c'est encadré, où les gens donnent leur consentement, il y a FamilyTreeDNA, puis il y a GetMatch. Fait que FamilyTreeDNA, c'est comme Ancestry, c'est une compagnie, tu sais, que les gens font affaire.
T'envoies un cheveu ou de l'ADN, puis eux autres, ils te retrouvent des ancêtres, des fois assez lointains. Puis maintenant, vous avez accès à ça. Mais là, c'était ça ma question. Parce qu'il me semble que j'ai connu quelqu'un qui avait fait... c'était pas les sites que vous m'avez nommés, c'était celui que j'ai nommé, là, My Ancestry. Mm-hmm. Puis qui disait, ouais, mais il n'y a pas de danger parce qu'il y a une clause là, de confidentialité où ils ne partagent jamais ces informations-là. Donc, les sites où vous avez accès ont accepté de faire signer comme un disclaimer là, à leur client, c'est ça?
Oui, bien c'est ça. C'est comme quand tu vas t'enregistrer, par exemple, sur GetMatch, eux, ils ne génèrent pas de profil ADN. Fait que toi, tu prends ce que tu as fait, tu sais, MyHeritage ou 23andMe, tu vas sur la plateforme pour échanger, tu sais, pour que si toi, tu l'as fait dans une plateforme, tu veux voir ce qu'il y a sur les autres plateformes. Puis quand tu t'inscris, il va y avoir une page où ça va t'expliquer, bien, ton profil pourrait être utilisé pour résoudre des crimes graves. Est-ce que tu acceptes de le partager? Puis là, il faut que tu dises oui. Puis là, chaque fois que tu vas sur le site Internet, il y a comme un petit badge de police à côté de ton échantillon. Fait que ça te rappelle que tu as dit oui pour que ce soit comparé. Dans certaines circonstances, là, comme je disais, nous, on s'en sert juste quand toutes les pistes d'enquête qui ont été, ça n'a rien donné. Puis, il faut que ce soit vraiment un crime grave. Fait qu'on parle, tu sais, homicide, on parle de tentative de meurtre, des agresseurs sexuels, des fois des agresseurs sexuels en série. Fait que c'est vraiment pour les crimes les plus graves. On va pas aller régler des introductions par effraction avec ça, là. Puis, c'est des grosses ressources. Fait qu'on l'utilise sur les cas qui sont non résolus. Puis, on peut faire ça sur des vieilles enquêtes, comme tu disais, des années 70. Puis on pourrait le faire sur des choses qui sont plus récentes, là, qui viennent de se passer. Il n'y a pas de limitation là, pour ça.
Est-ce que... puis là, ben, j'ai pas le nom. Moi, j'ai remarqué qu'il y en avait beaucoup. Mais ça, je quand même, mais ça fait plusieurs cas, là, des cold cases, des vieilles histoires qu'on résolut. Est-ce que vous avez... Là, c'est peut-être plus la police que ces chiffres-là, mais est-ce que vous avez comme un chiffre qui va avec ça? Est-ce qu'on a... Mettons, on a réglé combien de cas de plus versus avant qu'on ait accès à toutes ces infos-là?
Bien, c'est sûr que ça en règle beaucoup. Là. Tu sais, ça, c'est des technologies qui sont utilisées depuis, je vous dirais, à partir de 2020, 2021, 2022. Tu sais, ça a commencé à être utilisé. Fait que c'est pour ça que là, on voit qu'il y a de plus en plus de cas qui se règlent. Puis, tu sais, par exemple, au laboratoire, ben là, présentement, nous, à toutes les années, on aide les policiers à résoudre des crimes comme ça. Puis, ce qu'il faut savoir, c'est que ceux qu'on entend parler présentement dans les médias, ben c'est seulement la pointe de l'iceberg parce qu'on travaille, il y a beaucoup d'enquêtes qui se font en parallèle.
Ouais.
Puis là, ce qu'il faut penser, quand c'est une enquête qui a été faite dans les années 60, un crime qui a été fait dans les années 70, dans les années 80, mais même si on aide les policiers avec des pistes d'enquête avec l'ADN, bien, le travail policier, il faut qu'il soit fait comme dans une enquête parce qu'au bout du compte, ce que le policier veut faire, c'est amener la personne devant un juge pour qu'il soit condamné. Donc, il faut que tout ce processus-là se fasse. Mais maintenant qu'on a accès à ces outils-là, c'est sûr qu'on va en entendre parler là, de plus en plus fréquemment.
Est-ce que l'ADN, là, quand bon, vous faites des observations puis tout ça, puis vous trouvez de l'ADN, puis là, on est à plusieurs années plus tard, est-ce que ça devient altéré, cet ADN-là? Est-ce que ça dure à vie, ça, ou avec l'année, ça s'effrite, tu sais, ou ça s'efface?
Bien, il n'y a pas de date d'expiration sur l'ADN. Fait que si la pièce à conviction, là, tu sais, par exemple, on peut penser à un chandail. Là.
Oui.
C'est le chandail, il a été ramassé dans les années 80. Les policiers l'ont gardé dans un sac en papier, ils l'ont gardé dans une salle où c'était pas trop chaud, c'était pas trop froid, il y avait pas d'humidité. Parce que s'il y a de l'humidité, ça pourrait moisir, il va y avoir des micro-organismes qui vont aller manger l'ADN. C'était pas à la lumière. Fait que tout ça, c'est vraiment bien entreposé, puis c'est ça que les policiers y font. Bien, nous, quand on va aller faire le prélèvement sur la pièce à conviction, ça va être comme si on l'avait fait dans les années 80 au moment où le crime va avoir été commis. Ouais. On est capable d'aller le rechercher. Puis, tu sais, on le montre avec ces dossiers-là que quand on fait les prélèvements sur ces pièces-là, bien, l'ADN, elle est dessus puis elle est restée. Fait que si tout est bien conservé, nous, c'est pas une limitation.
C'est ça. Mais est-ce qu'il y a un temps? Puis là, mettons, je comprends qu'on n'a peut-être pas intérêt de toute façon à résoudre des meurtres de 1850, là, mais est-ce qu'il y a un temps quand même proscrit? Est-ce qu'après 100 ans, c'est plus difficile? Ou tant que c'est bien conservé, ça peut durer des millénaires?
Bien, tu sais, tant que c'est bien conservé, on va être capable d'aller le chercher. Puis là, quand on parle de centaines d'années, il y a des groupes, là, pas nous au laboratoire, mais il y a des groupes justement qui vont aller dans des cimetières des années 1800, qui vont aller, qui font de l'archéologie, qui vont aller déterrer des ossements. Fait que là, c'est sûr que c'est des échantillons qui sont plus difficiles, mais maintenant, on a la technologie pour justement aller travailler sur ces ADN anciens-là, puis d'avoir des résultats qu'on n'aurait pas été capable d'obtenir, tu sais, il y a 25 ans. Là.
Quand on enquête là, sur un meurtre non résolu, OK, donc il y a du prélèvement, tout ça, puis bon, on n'arrive pas à nos fins. Est-ce que l'analyse qui est faite, là, des fois, ça peut être un tout petit morceau, là, je sais pas, parce que la victime a été brûlée ou quoi que ce soit, donc on a un tout petit échantillon. Est-ce qu'on peut faire des analyses 45 fois sur le peu que vous avez entre les mains ou il ne faut pas manquer notre shot la fois qu'on fait une analyse?
Bien, c'est ça. Nous, quand on va réouvrir un dossier d'affaires non résolu, une des choses qu'il faut qu'il y ait, c'est qu'il faut qu'il y ait de l'ADN. Il faut que l'ADN soit de bonne qualité. Là. Donc, il faut que l'ADN qu'on a réussi à recueillir elle soit de bonne qualité. Puis il faut qu'il en reste. Donc, tu sais, il y a des dossiers où il y a des analyses qui ont été faites. Ça se peut qu'il ne reste pas d'ADN, fait qu'on ne pourra pas utiliser ces nouvelles analyses-là, là, parce qu'à chaque fois qu'on fait un test d'ADN, bien, on en utilise et on ne peut pas le réutiliser. Là. C'est comme si on le mettait dans un feu de camp, là, ça disparaît, fait qu'on ne peut pas le réutiliser. Donc, on fait quand même attention quand on fait nos analyses là, de toujours en conserver pour être capable de faire des expertises le plus possible. Puis, si jamais il nous en reste pas, ben on va essayer d'aller reprélever sur les pièces. Puis, ça, comme quand les pièces ont été bien conservées, ben on va pouvoir aller refaire des prélèvements puis essayer d'aller en chercher. Mais c'est sûr que c'est une des limitations. Là, si on a fait tous les tests puis on n'est pas arrivé à la fin de l'enquête, ben on peut pas revenir sur cet ADN-là.
Si vous avez accès aux pièces à conviction, donc à l'ADN, aux trucs qui ont été conservés, puis comme ça, là, de votre connaissance, est-ce qu'il y en a beaucoup des crimes graves, des agressions sexuelles, des meurtres où on n'a pas trouvé d'ADN? Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui doivent mal dormir à partir de maintenant?
Bien, c'est sûr que tous les dossiers, nous, au laboratoire, on en a une liste, on travaille avec les différents corps policiers au Québec. Là, nous, on sert tout le Québec. Pour justement aller prioriser les dossiers où on sait qu'il reste de l'ADN. que cet ADN-là, il est toujours inconnu dans les banques traditionnelles. Là. Parce que quand quelqu'un fait un crime, est condamné pour un crime, on a des banques traditionnelles qu'on peut aller chercher. Mais là, on se met à aller. Donc, c'est sûr que de plus en plus, on va réactiver des dossiers. Puis ça va nous permettre probablement d'identifier de plus en plus là, des suspects, des gens qui ont commis ces crimes-là. Puis finalement, tu sais, la finalité de tout ça, autant pour nous au laboratoire que pour les enquêteurs, c'est d'apporter des réponses, tu sais, aux familles souvent oui. qui attendent de savoir qui a fait ça. Puis c'est des technologies aussi, tu sais, là on parle beaucoup de crimes, mais c'est des technologies qu'on peut utiliser. Tu sais, par exemple, quand on repêche un corps dans un lac, là, on n'a pas réussi à l'identifier avec l'ADN, ben, tu sais, c'est des techniques qu'on peut utiliser. Puis là, apporter aussi du réconfort à la famille de savoir, ben, tu sais, on a réussi à identifier, ben, puis, tu sais, c'était un membre de votre famille. Fait qu'on travaille dans cet esprit-là, dans ce dossier-là, autant du point de vue criminel là, que du point de vue pour aider le bureau du coroner à identifier des gens.
Ben moi, je vous souhaite de toutes les pognées. Je vous souhaite beaucoup de succès. Puis bravo. Moi, écoute, c'est la science, c'est l'avancement de la science. Puis pour moi, là, c'est le plus les gens vont se dire qu'il n'y a pas de crime parfait, ben le moins peut-être qu'il y en aura, puis on le souhaite. Donc, lâchez pas, travaillez fort, puis allez nous chercher ça. C'est criminel, puis ces meurtriers-là. Merci énormément d'avoir pris le temps de nous décortiquer tout ça aujourd'hui.
Merci, avec plaisir.
Au plaisir. Nicolas Tremblay, donc, qui est biologiste judiciaire, porte-parole du laboratoire de sciences judiciaires de médecine légale.
Ben, on pense tous à Cédrica Provencher.
On
là.
Pense à bien des affaires.
Ouais,
là.
Mais on ne peut pas poser la question. C'est ça, il ne me répondra pas. Fait que ça ne donne rien. Là. Comment se fait-il?
Non, c'est ça. On ne peut pas aller dans les cas précis parce qu'ils sont en enquête encore. Là.
Exact.
Par contre...
C'est à elle que je pensais tout le long.
Ben, tout le long. Puis il y a d'autres. J'en avais d'autres. Puis il y en a qui ont été résolus. Là. Allez voir Cold Case résolu récemment. Là. C'est vraiment impressionnant. Ouais. Il y en a, c'est... Oh, tabarouette, on a sorti beaucoup, là. Puis moi, là, juste s'ils peuvent être plus capables de dormir le soir, là. Parce qu'il y a des gens qui ont fait des trucs horribles il y a 50 ans, puis c'est pas des meurtriers en série, là.
Oui, effectivement.
Ils l'ont fait, puis se sont cachés, puis ont réussi à pas se faire pogner, puis aujourd'hui, ils ont des jobs, là. C'est peut-être le gars de dépanneur, c'est peut-être votre chauffeur de taxi. Moi, là, juste le fait de savoir que ces gens-là, à partir de maintenant... Là, ils dorment plus le soir. Ça me fait beaucoup de bien.
Mais c'est fou aussi.
J'aimerais ça épogner.
J'aurais jamais pensé que de faire une recherche sur ton arbre généalogique, là, sur Ancestry et choses, là, ben là, dans ce cas-ci, moi, ça ne change rien parce que je suis pas une meurtrière. Mais c'est fou à quel point on laisse des traces qu'on n'aurait jamais pas pensé, puis ça sert.
Ah oui.
Tu sais, tout ce qu'on fait, là, fini. Il y a tout
parce
le temps
que, mettons, il n'ira pas l'ADN à toi parce que tu n'as pas de laissé d'ADN nulle part, tu sais, dans les banques officielles. Mais mettons, ta ma tante, là.
Oui.
Elle a fait, hey, ben, ça, ça va, c'est qui mes ancêtres en Écosse? Puis elle a envoyé son ADN.
Oui.
Eux autres, ils vont faire, OK, garde.
Il y a
un lien avec la madame, là. Puis dans notre liste de suspects, ben, il y a son filleul.
C'est capoté.
Ça, si t'as d'autres preuves circonstancielles, mais qui te manquaient un clou, tu viens de le trouver. Là.
Et voilà.
Fait que le filleul, il est fait. Puis ça va être à cause de ta matante, qui était trop curieuse, puis qui voulait savoir qu'une certaine Holna McDonald était son ancêtre en Écosse.
Fait qu'il faut éliminer nos matantes. C'est
joke. J'espère que vous dormez pas bien. 13h17. On fait une pause. On vient. Gary s'en vient.
Ouellette. Bon. En direct.
Oh, de quoi?
Petite pause. On revient dans pas long.
Radio X.